je suis pas figé au pupitre, vous savez bien, donc j'aime bien voyager. Je vais rester dans la salle, hein, vous inquiétez pas, hein. Je vais pas vous faire aller dans la rue. Voilà, je vous salue tous dans le bon nom de Jésus ce matin. Est-ce que vous allez bien? Alors, je veux vraiment remercier Camille et Léa pour ces moments qu'ils ont conduits dans la louange, l'adoration, je me suis senti au ciel. Bon, j'étais le seul apparemment. Vous êtes senti bien ce matin dans la présence de Dieu? J'ai vraiment ressenti à un moment donné où Jésus disait « Je suis là ». Je suis là. Il y a une petite quinzaine de jours maintenant. Oui, une quinzaine de jours. Maintenant, nous sommes à Recé pour quelques semaines ou quelques mois. Je n'en sais rien comment le Seigneur va diriger les choses. Nous sommes toujours itinérants. Mais lorsque nous ne sommes pas invités, eh bien, nous sommes dans l'église de Tony Santinaro. Alors, vendredi, lors de notre réunion de prière, il m'a chargé de vous remettre ses amitiés. Et il s'est excusé, je ne sais pas combien de fois, en me disant « Pascal m'a invité tellement souvent et j'ai toujours refusé. » Alors il m'a dit « Dis-lui bien que bientôt je viendrai. » L'invitation est lancée. Donc comme ça tu le sais bien. Et donc vous avez les salutations de l'église, de Tony, de son épouse, du comité pastoral. Et voilà, oui, tout à fait, je transmettrai votre amitié, vos amitiés de votre part à Tony et à l'église. Et vous avez aussi les salutations de mon épouse, elle n'est pas là ce matin, ni Sacha, et donc, mais elle est de tout cœur avec vous et avec moi. Amen. Ce qui compte, c'est que le Seigneur soit là. J'ai été vraiment conduit dans le message que le Seigneur m'a mis sur le cœur, et ce message, c'est attention aux voleurs. Attention aux voleurs. Je ne sais pas si vous avez été déjà victime d'un vol, et certains racontent comment ils ont été victimes d'un vol, comment on est rentré dans leur intimité, ou parfois on retourne tout dans la maison, jusque dans les sous-vêtements, et on a l'impression d'avoir été violé. Certaines personnes racontent ce fait de cette manière-là. Et je pense que ce matin, le Seigneur veut nous prévenir, mais en même temps on veut nous aider et nous bénir par rapport au fait que peut-être nous avons été volés d'une manière spirituelle. Alors sans plus tarder, on va lire ce texte dans Jean chapitre 10. C'est pas compliqué, c'est Jean 10:10. Jean chapitre 10 verset 10 où c'est Jésus qui parle et qui dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dira Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Amen. Vous dites amen à la parole de Dieu ce matin? Que les brebis aient la vie et qu'elle ait, une autre traduction dira, même avec abondance. Quand on lit un texte comme celui-là, on dit « Waouh, quel beau texte !» Surtout la fin du verset. Mais lorsque l'on lit le début du verset, on se rend compte qu'il y a deux plans. Deux plans, deux possibilités. Il y a d'abord le plan du voleur. Et puis, dans ce même verset, il y a le plan que Dieu a pour nous. Que Dieu a pour toi, mon frère, ma sœur, ce matin. Alors le plan du voleur, il est simple. Il est là pour égorger, dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le plan du voleur pour vous, comme pour moi, comme pour chacun d'entre nous. C'est de venir dérober, de venir égorger et de détruire tout sur son passage. Et puis, il y a le plan de Dieu, et c'est celui-là que nous avons lu, aussi, qui est là pour nous donner la vie, et la vie avec abondance. Pas une vie de pauvreté, pas une vie de lassitude, pas une vie difficile, bien que le chemin est étroit, mais une vie qui doit porter du fruit, une vie qui est là et qui est remplie d'abondance. Jusque dans les moindres petits détails de nos vies, Dieu veut prendre soin de nous. Vous avez le droit de dire amen, hein. Dieu veut prendre soin de nous. Et ce matin, bien, j'aimerais vous parler du voleur. Du voleur. Vous savez, je vais vous raconter, vous dire que le voleur, et c'est une vérité incontestable, le voleur, ça vole. Ça vole. Lorsque je suis revenu de vacances, il y a de cela quelques années, notre avion avait du retard. Nous revenions de Turquie et nous avons atterri à Bruxelles. Et normalement, on devait rentrer 2 heures ou 3 heures plus tôt, dans la nuit. Et c'est là qu'on se dit, Seigneur, tu sais toutes choses. On se demandait pourquoi, et parfois on se demande pourquoi les choses ne vont pas bon train ou dans la normalité, pourquoi il y a du retard, pourquoi est-ce que j'arrive une heure plus tard, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ceci alors que j'aurais dû être là. Parce que Dieu veut aussi nous préserver. Si vous saviez, frères et sœurs, et je fais une parenthèse, combien Dieu connaît, et Dieu sait qu'il nous évite parfois, sans qu'on ne le sache nous, des désagréments, des déboires. Pourquoi est-ce que j'arrive en retard à une réunion alors que normalement j'avais mis mon réveil et que, je ne veux pas dire pour ça qu'il faut arriver en retard tous les dimanches, hein, mais peut-être m'a-t-il évité un accident. Vous savez, parfois on se dit, oh, et on est parfois attristé ou dérangé parce que moi je ne supporte pas le retard, j'aime bien la ponctualité, mais il m'arrive aussi d'être en retard. Et on se dit, Seigneur, est-ce que tu as voulu ou tu veux me montrer quelque chose ou tu as voulu me préserver de quelque chose? Je ferme la parenthèse. Et donc je reviens de Turquie et lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai constaté que mon abri de jardin avait été vandalisé. Alors on m'avait volé plusieurs outils, on avait volé des jouets du petit à l'époque. Et je me rappelle, je me dis, mais Seigneur. Et en fait, ça s'était produit peut-être quelques heures avant, une heure ou deux. Et on sait que dans le quartier où nous habitons, il y avait eu 6 abris de jardin qui avaient été vandalisés. Vandalisés. Alors si ça tombe, je serais peut-être arrivé en plein moment de ce délit. Et le vieux Paul aurait pris le dessus. Pardonnez-moi l'expression, je vais me confesser, je l'aurais mis une tête au carré. Mais c'est comme cela. Et peut-être aurais-je été blessé parce que on ne sait pas du tout comment les choses peuvent tourner parfois et si mal. Je me rappelle, il y a eu un vol il n'y a pas tellement longtemps d'ici et la mamie, elle s'est fait voler 6 fois en quelques mois. Elle a une manière assez bizarre. Plutôt que téléphoner à la police, elle téléphone à sa fille. Et plutôt que tout fermer, elle s'enferme dans son grenier. Alors les gens, les voleurs le savent, et ils ont tout loisir de lui dérober tout. Et c'est toujours la même procédure. Elle entend du bruit à la porte, je dis, mais enfin, mais il faut faire quelque chose. Et elle monte au grenier, elle s'enferme. Le voleur, mes amis, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui, le voleur, c'est... Au niveau spirituel, nous le savons, c'est le diable. Et la parole de Dieu nous dit que c'est un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Quel cherchant qui il va voler, cherchant qui il va égorger, cherchant qui il va détruire. Et je l'ai déjà dit, je pense, dans cette église, le diable ne vous aime pas. Et ne vous aimera jamais. Ne voudra toujours que du tort et du mal pour votre vie. Soyons-en certains. Ne faisons pas copain avec le diable, parce que ceux-mêmes qui le servent, ils ne les aiment pas. Ils ne les aiment pas. Ah, au contraire, ceux qui servent Dieu, Dieu les aime. Et même ceux qui ne le servent pas, Dieu les aime quand même. Parce que Dieu veut que l'homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Alors oui, l'objectif du diable, c'est de nous voler, de nous prendre et de nous tuer, de nous prendre ce que Dieu a pour nous. Et croyez-en bien, la parole de Dieu dit qu'il y a une grande réserve de bénédictions dans le ciel vis-à-vis de certains. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Ah bon? Moi, j'aimerais bien que ce soit un peu pour moi aussi, vis-à-vis de tous, frères et sœurs. C'est pas réservé à des élites, c'est pas réservé à certaines personnes, lui, elle, mais pas moi. C'est pour tous. La Bible me dit que la citerne de Dieu est plein d'eau. Plein d'eau. Et qu'il envoie des bénédictions pour nous, afin que nous puissions en jouir. En jouir. Alors permettez-moi ce matin de vous parler de trois choses que le voleur veut nous dérober. Trois choses. Tout d'abord, la première des choses qu'il essaie de nous dérober, c'est attention au voleur de l'âme. Notre âme a une valeur que le diable connaît. Autrefois, avant d'appartenir à Dieu, nous lui appartenions. Nous étions sa possession. À cause du péché, le diable avait pris possession de nos âmes. Mais lorsque nous passons du diable à Dieu, alors c'est la possession a changé. Et nous appartenons à Dieu. Mais le diable veut toujours venir dérober ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'âme. C'est l'âme. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, il nous est dit ceci, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?»« À quoi te sert-il, mon ami, ce matin, si tu pouvais avoir d'euros millions, si tu pouvais gagner au loto, et qu'à un moment donné au ciel, tu perdes ton âme ?» Parce que ton âme n'ira pas vers le ciel, mais ira, et je ne veux pas faire frémir personne, mais vers l'enfer. Que servirait-il à un homme, dira Jésus, s'il gagne le monde entier, mais que s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Certains ont vendu leur âme au diable pour obtenir la gloire, pour obtenir la réussite, pour obtenir une activité professionnelle florissante, ils ont vendu leur âme au diable. Il y a certains chanteurs, certains groupes rock qui ont donné et vendu leur âme au diable en échange de leur succès. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme cela. J'ai consulté il y a quelques semaines les deux plus grosses fortunes du monde. Oh, ça ne m'intéresse pas, mais je voulais un peu savoir par rapport à ce que je vais dire. Et un jour, les deux plus grosses fortunes au monde ont mangé ensemble. Vous en connaissez au moins un des deux, parce que chacun vous possédez quelque chose qu'il a créé. C'est Bill Gates. Celui qui... Alors, il se chevauche. De temps en temps, c'est l'autre qui passe, le premier, puis il devient deuxième. Mais peu importe. Le premier, c'est l'Américain Bill Gates avec 86 milliards de dollars. C'est pas mal, hein? Non? Oh bon. Le deuxième Américain, c'est Warren Buffett qui a 75,6 milliards de dollars. Et à eux deux, le total est de 161 milliards, 6 millions de dollars. Et tous les deux mangeaient ensemble. Et je me dis, frères et sœurs, et c'est là où je veux en venir, c'est que, qu'importe les milliards de dollars qu'ils ont, pas un seul ne peuvent acheter une âme. Pas un seul ne peuvent acheter une âme. Avec tous leurs milliards, ils ne peuvent même pas s'acheter le ciel. Ils ne peuvent même pas s'acheter une place auprès de Dieu. On peut dire que de ces deux fortunes réunies ensemble ne peuvent acheter une âme. Alors aujourd'hui, on peut tout vendre. On peut tout acheter sur des sites en ligne. Mais jamais nous ne pourrons acheter notre âme ou une âme. Jamais. Plus nous possédons quelque chose de valeur, et plus il y a de voleurs. Il y a la convoitise qui est là. Et bien parfois, et il n'y a pas que dans les films que l'on voit cela. Lorsque nous avons un bien, il y a toujours des gens qui vont essayer par tous les moyens de le dérober. Regardez, ce fils prodigue, où ce père a donné une partie de sa fortune qui lui est réservée. Il y a eu l'audace de demander en tant que jeune homme la partie de l'héritage qui devait lui revenir. Et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il a eu beaucoup d'amis. C'est comme cela. Il a eu beaucoup d'amis et il a dépensé toute sa fortune. Il l'a dilapidée, je ne sais pas en combien de temps, mais tout compte fait qu'à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est senti tout seul. Ses amis l'ont délaissé. Ceux qui prétendaient l'aimer. Ceux qui prétendaient être de vrais amis. Vous savez, les vrais amis, ça ne se compte que sur le doigt d'une main. Les doigts d'une main. Et généralement, il y a pas tellement longtemps, quelqu'un me disait, je n'ai jamais eu d'amis. De vrais amis. Et c'est vrai que l'ami sincère, véritable, il est cher. Il faut parfois essayer de trouver, parce que l'ami, le vrai ami, a une confiance telle qu'il ne va jamais nous décevoir. Et que même si à un moment donné, il y a des divergences d'opinion, il va respecter notre opinion. Ça, c'est le vrai ami. C'est pas celui qui va profiter de notre fortune ou de notre bien-être social ou de notre bien-être ou activité professionnelle que nous avons pour profiter de nous, mais qui va se trouver, comme la Bible nous dit, comme un frère dans le malheur, dans la difficulté. Lorsque je n'aurai plus d'argent, je vais à ce moment-là pouvoir compter sur ces vrais amis qui m'aimaient lorsque j'en avais, et qui m'aime toujours, même si je n'en ai plus. Vous êtes d'accord avec moi? Eh oui, c'est comme cela. C'est comme cela. Faisons attention à ceux que nous côtoyons, mes amis. Parce que certaines personnes nous tirent vers le bas. Toujours plus bas. Et d'autres vont essayer par tous les moyens de nous tirer vers le haut. Vers le haut. Et c'est vers cela que nous devons aller. Oui, plus on a de choses qui valent cher, plus il y a des gens qui veulent les voler. Les voler. Le voleur connaît la valeur inestimable de notre âme. Le diable connaît la valeur inestimable de notre âme. Notre âme appartient à Dieu, mais le voleur veut notre âme. Le diable veut nous récupérer et récupérer notre âme. Alors, il y a une question qui se pose ce matin. Que faire pour protéger notre âme du voleur? Que faire pour protéger notre âme du voleur? Quelles sont la manière d'opérer, de faire, pour qu'il ne puisse pas avoir une possession sur notre âme? Eh bien, nous allons essayer d'y répondre. La première chose que je dirais, c'est fermer la porte à tout ce qui peut nuire à notre âme. Tout ce qui est sale. Tout à l'heure, Pascal nous parlait des mains pures, un cœur pur, des pensées pures, des choses qui plaisent à Dieu. Et parfois, alors qu'aujourd'hui nous sommes environnés de toutes sortes de choses néfastes pour notre âme, ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut tout le temps fermer les yeux et ne plus rien regarder. Vous savez, le premier regard, c'est pas celui-là qui va être néfaste pour nos yeux, c'est le second. Je peux regarder une femme et je peux trouver qu'elle est jolie à condition que je détourne mon regard par la suite. C'est pas vrai? Si je commence à convoiter, là ça devient dangereux et néfaste pour mon âme. On dit toujours qu'on ne peut pas empêcher les oiseaux du ciel tournoyer autour de notre tête. Ce qu'on peut les empêcher de faire, c'est de faire leur nid sur nous. C'est là la difficulté. Je peux très bien regarder, mais non plus après continuer à regarder et à commencer à avoir de mauvaises pensées. De mauvaises pensées. Vous saisissez? Voler quelqu'un. Il nous arrive malheureusement parfois de cohabiter avec le voleur. C'est bizarre ce que je dis, mais je veux approfondir. En disant que l'objectif du voleur, ce n'est pas la cohabitation. L'objectif du voleur, c'est de dégorger, détruire et de prendre ce que Dieu a pour nous. Et je crois qu'il faut en revenir à une place dans nos vies, mes amis, où il faut dire « dehors le voleur ». Je ne veux pas de cohabitation avec toi. Je ne veux pas constamment que tu sois à mes côtés et que l'on vive ensemble. Mais je veux te mettre dehors dans le nom de Jésus. Vous pouvez dire amen, hein? Eh oui. Dehors le voleur. Il faut, et c'est mon deuxième point, veillez sur notre âme comme un bien précieux. Comme un bien précieux. Quand nous avons quelque chose, on en prend plus soin que quelque chose qui n'est pas intéressant. Moi, je me souviens, lorsque j'ai eu ma première voiture, personne peut-être en aurait voulu. Alors, je vous explique en deux mots, toutes les clés fonctionnaient sur la portière. La vôtre, la mienne et n'importe qui. Je pouvais prendre le barillet dans mes mains. On n'a plus de barillet aujourd'hui, on a des cartes. Mais à l'époque, toutes les clés fonctionnaient sur le barillet. C'était porte ouverte. La seule différence, c'est que sans le barillet que j'avais dans ma poche, personne ne pouvait me la prendre, sinon il fallait démonter et prendre les fils. Elle était, pardonnez-moi l'expression, pourrie partout. Mais c'était le plus beau des tacos. Ah ouais, pourquoi ? Parce que je l'avais acheté avec mes deniers. Et pour moi, c'était le plus beau des véhicules. Alors, souvent, j'arrivais à l'école avec, et puis tout le monde rigolait. Mais moi, j'étais à l'abri, et surtout en Belgique, par rapport à la pluie. C'est lorsqu'il pleuvait que je pouvais commencer à rire, moi qui étais à l'abri. Parce qu'elle prenait quand même pas l'eau. C'est formidable, hein ? Alors, j'avais, à un moment donné, je travaillais chez un restaurateur et on l'avait repeint. En verte, parce que j'aime bien le vert, alors on l'avait repeint en vert. Il avait acheté un pistolet, là, peinture. Et alors, j'avais un jour de congé, j'étais passé chez lui. Et puis, je voulais pas la laisser, je voulais repartir. Il dit, mais laisse-la sécher. Non, je vais y aller. Et puis, il a commencé à pleuvoir. C'était une voiture unique, mes amis. Personne ne pouvait avoir une voiture comme la mienne. Elle était granuleuse. Sur toute la carrosserie. Mais qu'est-ce qu'elle était belle. Et un jour, j'en ai acheté une autre et je l'ai laissée. Oh, elle a été à la casse directe. Et à un moment donné, je ne sais pas, il me fallait une pièce de voiture et je suis arrivé chez un démolisseur. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ma voiture! Ma première voiture qui était là, et je l'ai encore regardée, je dis, tu m'en as tiré des endroits. Une voiture, un vrai taco, mais c'était quelque chose qui avait de la valeur à mes yeux. Et c'est normal, quelque chose que nous achetons, comme mon premier instrument, je l'ai encore. Alors, il est dans le grenier, il a plus de 30 ans, mais je veux pas le vendre et je veux pas le donner, je le garde. Ça a de la valeur. Alors ça devient une valeur sentimentale, et c'est normal. Et combien de choses que nous avons chez nous qui ont une valeur sentimentale, ou quelque part nous rappellent des souvenirs, et dans lesquels nous ne voulons pas qu'il y arrive quelque chose à ce vase, par exemple, que nous avons obtenu, eu de notre arrière-grand-mère. Et si on vient à nous le casser, il va avoir une déchirure, là, c'est pas vrai? Parce que ça a une valeur pour nous. Peut-être que pour les autres, c'est moche, c'est affreux, ça ne devrait pas être là, mais pour nous, c'est la plus belle des pièces qui doit être là dans la maison. La valeur, vous saisissez? Et voyez-vous, la valeur de notre âme, elle doit être pareille à la valeur de ce à quoi nous portons nos regards. Nos regards. Veillez sur notre âme comme sur un bien précieux. Vous savez, il y a des gens, et autrefois, ils sont un peu parano. Ils laissent pas leur argent à la banque, ils ont tout sur en eux. Moi, je connaissais le grand-père de ma femme qui avait des dizaines de milliers de francs dans sa poche. Mon beau-père m'expliquait une fois, c'était encore en francs belges, pour les plus âgés, vous connaissez, et il avait toujours 100 à 120 000 francs sur lui. Toujours. Aujourd'hui, ça représente 2 500, 3 000 euros. Toujours! 120 000 francs. C'était comme cela. Rien à la banque, tout dans sa poche. Et il y a des gens comme cela. Et c'est la valeur qu'il avait. Et l'envie de montrer. Il y a des gens comme ça, ils sont très forts. Hein. Ils déballent leurs billets. Puis après, ils s'étonnent qu'on les vole. Et oui, on les vole. Je pense sincèrement que nous avons besoin de protéger notre cœur et notre âme. Il faut le dire que nous laissons souvent une porte grande ouverte, une libre entrée, un accès facile à l'ennemi.
qui lui va profiter de cela. Profiter de cette porte que nous lui avons cédée, ouverte. On regarde n'importe quoi à la télévision. Aujourd'hui, nous avons le net. Et parfois, il y a des images qui arrivent, pornographiques. C'est pas un problème de voir l'image pornographique à partir du moment où je coupe. Mais si je continue à regarder, c'est là le danger. Et c'est là où je salis mon âme. Vous saisissez? Si je vais boire un verre, c'est pas un problème d'aller boire un verre. Si je commence à en boire 5, 10, 15, 20 et que je roule en dessous de la table, là il y a un problème. Vous saisissez? C'est toujours l'excès qui tue. Alors on regarde parfois des choses violentes, et puis on s'étonne que nos enfants sont complètement tarés, excusez-moi l'expression, parce qu'ils reproduisent ce qu'ils viennent de voir. Ils jouent à des jeux violents sur la PS4, et puis on s'étonne, comment se fait-il qu'un gars, un si gentil garçon à l'école, vienne à poignarder son copain? Mais oui, mais attendez, je veux faire la morale à personne, je veux simplement qu'on puisse s'analyser. Et comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
Vous savez, je suis enseignant, je vois toutes sortes de choses, et j'entends les jeunes qui me disent « Ouais, on joue à des jeux, et ça gicle dans tous les sens, une jambe arrachée, un bras arraché, la tête arrachée, et ça pisse le sang. Waouh !» Vous saisissez ? On écoute parfois à la radio n'importe quoi. Des musiques agressives qui ne font que salir notre âme. Alors j'ai pas dit qu'il fallait pas écouter la radio, j'ai pas dit qu'il fallait pas regarder la télévision, j'ai pas dit qu'il fallait plus aller sur le net. Il y a de très bonnes choses. Le problème, c'est que il ne faut pas salir notre âme. Et laisser une porte ouverte à l'ennemi. Si je suis fragile dans un certain domaine, je ne vais certainement pas lui donner l'occasion de me salir. Vous saisissez? Parce que lui connaît notre fragilité. Et croyez-moi, on n'est pas tous des Samson. Et même Samson, à un moment donné, avec sa force, il dira quoi? Je m'en sortirai comme les autres fois. Eh bien, c'est là l'erreur. C'est que cette fois-là, il ne s'en est pas sorti, parce que on a connu son secret, parce qu'il l'a divulgué. Tant que nous sommes proches de Dieu, tant que nous sommes proches de lui, tant que nous avons une communion avec lui, ne donnons pas l'accès au diable, facilement, mais fermons-lui la porte. Fermons-lui la porte. Oui, il ne faut pas s'étonner après si notre âme est contaminée. Contaminé. Vous savez, un jour, il y a une dame qui a acheté une télévision. Il y a de ça, c'est quelques années. Je ne sais pas si vous l'avez déjà raconté. Peu importe, je la raconte quand même. Et elle a acheté cette télévision et à un moment donné, les livreurs sont arrivés, ils ont sonné à la porte et les gens, ces deux livreurs ont rentré cette grosse télévision. C'est plus comme les télévisions qu'on a aujourd'hui qui sont tellement fines. Enfin, quoi qu'elles sont pesantes quand même. Et puis, ils sont arrivés et ils l'ont rentré et sur la boîte de la télévision était mis « Le monde est entré chez vous ». Et cette brave chrétienne a dit « Ah non, je ne veux pas de cela. Reprenez cette télévision ». Eh oui, le monde est entré chez vous. Ça fait rire. Eh oui, mais c'est comme cela. Cette dame, alors encore une fois, j'ai rien contre la télé, bien que je la regarde pas beaucoup, mais c'est pas grave. Faisons attention aux programmes que nous regardons et que nous laissons regarder aux tout petits, à nos enfants, sous prétexte, vous savez, en leur disant, je vais être tranquille, regarde la télé, mon fils ou ma fille. Regarde, salis-toi l'esprit, fais ce que tu veux. Et surtout, s'il y a des choses qui ne sont pas belles, continue à les regarder. Et puis, à un moment donné, on se rendra compte que leur âme est salie, que leur esprit est sali, et on se demandera peut-être pourquoi, alors que nous n'avons peut-être pas fait ce qu'il fallait. Vous savez, il faut veiller. Veiller parce qu'il y a un voleur. Veiller parce qu'il y a un voleur. C'est une réalité. Je vous raconte pas de l'utopie ce matin. C'est la réalité. Le voleur laisse des traces. Son empreinte.
sa signature.
Il y a de cela quelque temps, un frère s'était fait voler, chrétien. Et les voleurs, alors que lui ne fumait pas, sont rentrés dans la maison et fumaient. Et quand il est rentré chez lui, il a constaté que la fenêtre avait été cassée, que les gens étaient rentrés chez lui, qu'on lui avait volé. Et vous savez, il disait ceci. Le lendemain, lorsqu'il s'est levé, il y avait toujours cette odeur. Oh, il n'y avait plus l'odeur du voleur, il y avait l'odeur de la cigarette, l'empreinte de ce vol. Et le voleur viendra toujours de cette manière-là. Il laissera toujours un goût amer derrière lui, une odeur. Il laissera sa signature, sa signature. Oui, qu'est-ce que ça sent dans nos vies? Est-ce que c'est l'odeur du voleur ou l'odeur du Christ? Est-ce que c'est cette odeur qui est là, nauséabonde dans nos vies, qui prend place et qui a pris place jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce que c'est l'odeur de Christ, l'odeur de Jésus? On a besoin de nettoyer notre vie dans les moindres petits détails. Pourquoi? Parce que le diable est dans le détail. Le diable est dans le détail. Oh, c'est pas grave! C'est un péché mignon. Celui qu'on cajole, celui qu'on aime, celui qu'on chérit. Et ce péché qui est si mignon au départ devient une grosse montagne et nous prend le dessus. Alors non, il n'y a pas de péché mignon.
Moi je ne connais que le filet mignon. Je suis un cuisinier donc c'est pour ça que je le dis. Mais je ne connais pas de péché mignon. Le péché mignon, mes amis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on ne joue pas, on ne caresse pas le péché. Il n'y a pas tellement de cela, j'ai prêché à l'église à Recès sur le péché et ses conséquences. Il y a toujours des conséquences au péché. Et parfois, elles peuvent être dramatiques, frères et sœurs. Dramatiques. Et elles peuvent nuire même à notre marche spirituelle avec Dieu. Et peuvent avoir toujours une empreinte qui est là aussi. Oh, ça nous permet d'avoir une leçon, mais en même temps, parfois, par rapport au péché que nous commettons, cela peut avoir des répercussions dans notre vie, dans notre famille, et même dans l'Église. Dans l'Église. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. L'âme peut être en danger, on a besoin de dire dans le nom de Jésus, dehors le voleur. Vous êtes d'accord avec moi? Alors attention aux voleurs de joie. La parole de Dieu nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dira dans Philippiens chapitre 3 verset 1er, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. L'importance de la joie. Les voleurs de joie. Est-ce qu'ils seraient passés parmi vous? Est-ce qu'il serait passé chez toi, ce voleur de joie qui ne te permet plus de sourire, qui ne te permet plus de rire, qui ne te permet plus d'être heureux, qui ne te permet plus d'être joyeux, d'avoir le sourire sur les lèvres? Est-ce que ce voleur de joie serait passé alors que l'apôtre Paul dira, réjouissez-vous toujours, pas une fois par semaine, le dimanche matin, lorsque vous venez au culte, mais toujours, du lundi matin au dimanche soir, Il y a ce que j'appelle une conspiration pour nous faire perdre notre joie. Et l'apôtre Paul nous dit ceci, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et lorsque l'on considère, vous savez, je pourrais très bien vous dire, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Puis vous allez me dire, mais quand je connais ta vie, t'as tout. T'as une femme merveilleuse, ça c'est vrai. T'as un enfant super, merci Seigneur. T'as un ministère. T'as des compétences, t'as des qualités, t'as ci, t'as là. Oui. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Et lorsqu'on considère et qu'on le regarde, sa vie, la vie de Paul, eh bien, Paul a eu plus de problèmes. Et plus parfois de mauvaises choses que de bonnes choses dans sa vie. Et il mentionne justement, ça a été parfois une succession de choses épouvantables. Je vais vous les décrire, les dépeindre en quelques instants. Le jour de sa conversion, on prétend qu'il n'est pas chrétien.
Ça commence fort, hein.
Les chrétiens ne veulent pas le voir. Parce qu'ils ont en mémoire que c'est Saul de Tarse qui tue les chrétiens. Et lorsqu'il se convertit, même Ananias a des scrupules à aller prier pour lui. Parce qu'il va raconter à Dieu, « C'est Seigneur, t'es peut-être pas au courant, mais je vais te mettre au courant de ce que... » C'est Saul de Tarse. C'est celui qui tue tes enfants. C'est celui qui rentre dans les maisons et qui égorge, qui tue. Alors, t'es pas au courant, mais... Non, non, toi t'as les nouvelles d'aujourd'hui. Moi j'ai les nouvelles d'hier, dira Dieu. Aujourd'hui c'est un autre homme. Tu vas aller prier pour lui, dans cette rue qui s'appelle la droite, et il est à genoux et il prie. Il prie. Même Ananias a des scrupules pour aller prier pour Paul. Et puis ensuite, il prêche l'évangile. Et la moitié de la ville veut le lapider.
Oh, chouette, ça commence fort le ministère. Hein. Non mais attendez, à un moment donné... Donc déjà, on prétend que je ne suis pas chrétien. Puis je prêche l'évangile et toute la moitié de la ville veut me lapider.
Délivrance d'une femme possédée, il est arrêté, battu et jeté en prison. À un moment donné, ça suffit quoi. Stop. Vous ne trouvez pas? Vous en voulez encore un petit peu? Alors je vais vous donner la suite. Beaucoup de gens qui auraient certainement réagi en disant c'est terrible. J'ai voulu juste servir le Seigneur. J'ai voulu juste appeler, faire ce que le Seigneur à quoi il m'a appelé. Dans le ministère, et me revoilà en prison, battu de verges.
C'est épouvantable ce qui lui arrive. Et il ne se lamente pas, lui, l'apôtre Paul, parce que derrière cela, il y a une réelle conversion.
Et au fond de sa prison, eh bien, il va chanter. Il va louer Dieu avec Silas. Et les portes de la prison vont s'ébranler, au point que tous les prisonniers ont voulu partir et tout le monde est resté et même le geôlier a voulu se donner la mort. Alors il y a cette belle histoire où ce geôlier va rencontrer Jésus au travers de Paul et de Silas. Les murs ont été ébranlés, les prisonniers libérés, le geôlier s'est converti, toute sa famille baptisée. Et c'est ainsi que l'église de Thessalonique s'est implantée. Derrière tout cela, il y a toujours un but pour Dieu. Nous ne savons pas pourquoi, parfois, nous passons par maintes et maintes épreuves, maintes et maintes choses, mais dites-vous bien que Dieu sait. Et si l'église de Thessalonique devait arriver à être construite de cette manière, à démarrer comme cela, c'était dans les desseins de Dieu, pas les nôtres. Ensuite, il est prisonnier en bateau. Il fait naufrage. Et comme si c'était pas encore assez, il échoue sur une île. Ils font du feu et à un moment donné, paf, il y a une vipère qui vient le piquer.
Alors c'est stop. Vous trouvez pas? Alors je dis c'est fini, moi je rentre chez moi. Seigneur, t'appelleras quelqu'un d'autre.
Et voyez-vous, cet homme va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Lui pouvait le dire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Au lieu de s'abattre, la Bible nous dit qu'il a prêché l'évangile sur l'île et tous les malades de l'île ont été guéris. Gloire à Dieu. Oui, il y a une puissance dans la joie. Et je sais que, je ne sais pas pour vous, mais lorsque je suis dans la joie, c'est pas pareil que lorsque je suis dans la tristesse. Moi, à l'école, on me dit toujours, t'as toujours le sourire. Bon, j'essaye. On met pas des masques et des façades, mais c'est parce qu'il y a une joie qui est là, qui demeure. On sait pas expliquer, oh, ça ne veut pas dire que tout est rose et violette, qu'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas d'épreuves, loin de là, mais il y a cette joie qui demeure, qui reste malgré tout. Vous savez, quand je suis dans la joie, j'ai le goût de servir Dieu. J'ai le goût de prêcher l'évangile, j'ai le goût de jouer de la musique, j'ai le goût de louer et d'adorer. Quand je suis dans la joie, je suis une source d'inspiration pour les autres. J'ai envie de voir les frères et les sœurs de l'église. J'ai envie de les saluer. J'ai envie de leur parler. J'ai envie parce que je suis puissant pour Dieu. Lorsque je suis dans la joie, c'est pas vrai? À l'inverse, quand je suis dans la tristesse, j'ai plus envie de servir. J'ai plus envie souvent que je m'isole de la maison de Dieu, j'ai plus envie de voir aucun frère, aucune sœur. Je suis en danger et il y a une menace qui pèse sur moi parce que le diable le sait. Vous savez que le lion, c'est le diable. Et il faut savoir que lorsque il y a la chasse, quand les lions chassent, ils vont toujours voir les animaux qui sont isolés. Ils vont pas aller voir un troupeau parce qu'ils savent que c'est trop dangereux, mes amis. Mais ils vont toujours aller voir l'animal qui est chétif, qui est malade, qui va courir moins vite que les autres, qui va être isolé du troupeau. Et dans l'église, lorsque je suis isolé de la maison de Dieu, de la famille de Dieu, je suis en danger. Parce que le diable, le lion, va pouvoir avoir une emprise sur moi. Vous saisissez ? Une emprise. Oui, quand je suis dans la tristesse, je perds ma fraîcheur spirituelle. Je deviens une cible pour l'ennemi. Alors ne soyez pas surpris si l'ennemi veut tout faire pour vous voler votre joie. C'est normal. Pour vous saper le moral. Un coup de téléphone le matin et la journée est quasiment foutue. Voyez-vous, l'ennemi veut tout faire pour nous voler notre joie. Parce qu'un frère ou une sœur qui a perdu sa joie devient inefficace dans le royaume de Dieu. Inefficace. Parce que lorsque je perds ma joie, je commence à être fébrile. Lorsque je perds ma joie, je commence à critiquer. Parce que lorsque je perds ma joie, je vois tout en noir et tout ce qui ne fonctionne pas. Lorsque je suis dans la tristesse et que ça ne va pas, je commence à parler mal de l'un et de l'autre. Parce que je suis éloigné de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. Mais lorsque Dieu habite en moi et que je suis proche de lui, j'ai une communion intense, alors même les petits détails qui semblent, lorsque je suis triste, m'affecter, ne m'affectent plus. Ne me tient plus à cœur. Parce que nous savons tous que nous ne sommes pas parfaits. C'est pas vrai? Eh oui. Nous ne sommes pas parfaits. Ah, je crois que l'on a besoin de récupérer la joie et la puissance de la joie. Il y a parfois même des serviteurs qui se sont fait voler leur joie, ne sont plus joyeux pour l'Église. Je vais aller plus loin ce matin en vous disant que ce n'est pas normal que dans l'Église de Jésus-Christ, il ne doit pas avoir de joie. Il faudrait installer des détecteurs de joie à l'entrée de l'église. Et lorsque ça sonne, il y a un problème. Ah, on va prier. Tu n'as plus la joie, frère. Et lorsque ça ne sonne pas, tout va bien. Il y a la joie. Oui, des détecteurs de joie. Imaginez un leader de louange qui est là ce matin et qui dit « Bonjour, frères et sœurs. C'est pas facile. Chantons la joie du Seigneur. La vie est difficile, ce matin est dur, mais on va chanter quand même ce matin. Ah, ça c'est enthousiasmant, hein, vous trouvez pas? Ah, ça va pousser tout le monde à la louange. C'est pas vrai? Mais c'est comme ça. Eh oui, chantons la joie du Seigneur. Et alors on essaie de prendre un verset biblique qui va, il y a d'abondantes joies devant le Seigneur. Waouh. J'ai vraiment envie. C'est pas vrai? Eh oui. Les leaders de joie devraient être remplis, les leaders de louange, pardon, devraient être remplis de la joie de Dieu. Alors vous savez, parfois, on est dans la tristesse et on invite son voisin, ou on l'a invité depuis des années, il n'est jamais venu, et ce jour-là, on a une tête d'enterrement, de cafetière, et on voit le voisin là arriver, et nous on est triste. On est triste, ou un ami, ou que sais-je. C'est ça l'église? Ah ben t'as l'air d'être heureux. T'as l'air d'être joyeux. Ça fait rire, mais quelque part, ça laisse à réfléchir, mes amis, c'est pas vrai? Eh oui. Ce n'est pas normal s'il n'y a plus de joie dans l'église. Je crois que l'église devrait être l'endroit le plus heureux sur la planète Terre. Vous êtes dans la joie ce matin? Même si, et on va prier pour ça, même si le voleur essaie par tous les moyens de vous ôter cette joie, par des choses qui vous affectent,
Mais ce qui vous affecte, affecte Dieu. Et ne veut pas vous laisser dans cet état, mais veut vous bénir et veut vous visiter. Ce matin, je le proclame dans le nom de Jésus. Amen. Oui, je crois que les déprimés, les découragés, dès qu'ils rentrent dans l'église, devraient être saisis de la joie du Seigneur. On doit transmettre la joie. Transmettre la joie. La joie, c'est extrêmement contagieux. La tristesse l'est tout autant. La tristesse l'est tout autant. Vous savez, il y a des endroits, par exemple, si vous avez peur de l'ascenseur, vous pouvez contaminer tout le monde dans l'ascenseur. Et tout le monde va paniquer. Mes frères avaient toujours cette ingénieuse idée, c'est de mettre leurs mains devant le fuseau. Et l'ascenseur se bloquait entre deux étages. Moi, je le savais parce que je les connaissais. Alors les gens commençaient à paniquer. On est coincé. Alors ils arrivaient à pousser à tous les boutons. Et puis mon frère, à un moment donné, lâchait sa main et le fuseau repassait. Ah ouais, c'est sadique, je sais. Et c'est comme ça les blagues parfois. Mais il y a des gens qui devenaient complètement pâles et arrivaient à avoir des crises. C'est extrêmement contagieux. Mais si à côté quelqu'un, vous avez quelqu'un qui dit « T'inquiète pas, ça va aller, l'ascenseur va se remettre en marche. » Et si « On va tous mourir !» Ah ben forcément, là, c'est pas rassurant. Hein. C'est pas rassurant. Ça, je peux comprendre. Oui, des détecteurs de joie. La joie, c'est contagieux, mais la tristesse l'est tout autant. Alors, je crois vraiment, de tout mon cœur, ce matin, que l'on doit et que l'on a besoin de récupérer la joie du Seigneur. Certains d'entre vous ont peut-être perdu la joie pour de vraies raisons, pour de vraies batailles, de vraies luttes, de vraies difficultés, de vraies déceptions, de vrais combats, de vraies difficultés. Mais la joie du Seigneur est au-delà de toutes ces choses. Alors vous me direz, oui mais pasteur, ça c'est facile à dire, tu connais pas ma vie, tu ne sais pas par quoi je suis passé. C'est vrai, moi je ne le sais pas, mais lui sait. Et c'est là qui doit être toute la différence, c'est que lui nous connaît. Il connaît les déceptions, il connaît notre mariage qui a, pardonnez-moi, foiré. Il connaît nos enfants qui sont loin de lui. Il connaît les besoins financiers que nous avons. Il sait que tous les jours, c'est pas évident. Il connaît nos luttes, nos combats. Mais au-delà de cela, lorsque je lui fais confiance, alors je peux remercier Dieu. Et je peux être malgré tout dans la joie. Vous savez, il y a des mois, parfois, on se dit, Seigneur, ce mois-ci, je vais pas y arriver au niveau financier. Et puis, on s'étonne en arrivant à la fin du mois que toutes les factures sont payées. Et il y a encore à manger dans le frigo. Et c'est là où on se dit, pardon Seigneur d'avoir douté. Je me suis inquiété pour rien. Je m'en suis fait pour rien. Je me suis fait du mauvais sang pour rien. Et pourtant, si je m'étais occupé autre chose que des biens matériels et m'occuper de toi, j'aurais pu m'éviter, vous êtes d'accord avec moi, parfois, de souffrir inutilement. Inutilement. Oui, Dieu veut nous donner une joie même au milieu d'une tempête, même au milieu des catastrophes. Dieu peut vous donner une joie, une paix qui surpasse toute intelligence. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, dira Jérémie, chapitre 31, verset 43, verset 13, pardon. Aujourd'hui, ne passez plus une journée, mes amis, frères et sœurs. Ne passez plus une journée sans la joie du Seigneur. Vous vous êtes fait voler votre joie, mais le Seigneur se spécialise à nous donner tout ce que le diable nous a enlevé. Vous dites amen ? C'est le spécialiste qui vous le dit. C'est Dieu lui-même à vous redonner ce que le diable vous a enlevé. Et je termine en disant attention aux voleurs de bénédiction. Voleur de bénédiction. Alors que la Bible est claire, nous l'avons lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'abondance, c'est quoi? Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu. C'est que vous soyez dans l'abondance. Et lorsque l'on parle d'abondance, parfois c'est mal compris. On ne pense qu'à l'argent. C'est pas ça.
ou ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Oui, abondance égale argent. Le dictionnaire dit ceci. Grande quantité supérieure aux besoins. Grande quantité supérieure aux besoins. Et quand on parle d'abondance, ce n'est pas simplement l'abondance financière, mais c'est aussi l'abondance spirituelle qui déborde sur les autres. Si j'ai une abondance spirituelle, si Dieu m'inonde de son abondance, alors je peux être contaminateur. Je peux être contagieux et donner, transmettre aussi cette abondance spirituelle aux autres, à celui qui est à côté de moi. Donner aux autres, d'avoir des contacts, des amis, l'abondance dans le ministère pour porter du fruit. Que mes brebis soient dans l'abondance. Et le plus grand vol qui nous arrive aujourd'hui, c'est le vol de nos bénédictions, de ce que Dieu a prévu. Et c'est terrible de se voir faire voler quelque chose que nous ne possédons pas encore. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous donner un exemple. Vous avez l'opportunité d'aller acheter une nouvelle voiture. Alors vous allez au concessionnaire, vous en avez tant rêvé, vous prenez toutes les options. Tout ce que est à votre disposition, les finances le permettent, vous pouvez l'avoir. Et lorsque, quelques jours plus tard, vous arrivez à la concession pour prendre possession de votre nouveau véhicule, le vendeur vous regarde et vous dit, « Je suis désolé, monsieur, madame, on est venu nous voler tous nos véhicules et le vôtre était dedans. » Ça, c'est se faire voler quelque chose que nous ne possédons pas encore. Et quelque part au niveau spirituel, c'est la même chose. Dieu veut nous voir dans l'abondance. Mais le diable va essayer par tous les moyens de nous ravir même l'abondance que Dieu a pour nous, la bénédiction que Dieu a pour nous, et nous la faire voler devant nos yeux, avant de l'avoir même saisie et obtenue. Alors je dirais ce matin, assez. Assez de laisser à l'ennemi, et qu'il puisse venir nous voler même des bénédictions que nous n'avons pas encore obtenues. Mais que Dieu a promis. Que Dieu a promis. Oui. Pire que cela aussi, se faire voler des choses qu'on ne sait même pas que nous aurions pu avoir. Eh oui. Des choses même que nous ne savions pas que nous allions avoir. Il y a des bénédictions en réserve pour le peuple de Dieu. Et que Dieu lui-même a pour nous. Et malheureusement, parfois, le peuple n'est pas conscient des bénédictions que Dieu veut lui accorder. Alors on végète, on vit sur nos acquis. Oh, c'est bien comme cela. Et Dieu veut nous voir aller plus loin. Il a autre chose pour nous. Et c'est dans cette autre chose, cette autre dimension que nous devons aller. Toujours plus loin avec Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. Le diable, le voleur, nous prend, nous vole nos bénédictions et c'est terrible. On a souvent dit que la Belgique, c'est une terre difficile. Et labourer, c'est dur. Dieu n'a pas à faire de grandes choses. On commence même à y croire en disant, oh tu sais, dans les pays, là-bas, bon, il y a la présence de Dieu, la puissance de Dieu, les âmes viennent à la conversion, se repentent, mais ici en Belgique, c'est difficile. Moi, je me souviens d'une chose, mes amis, on venait de finir une mission d'évangélisation dans l'église où j'étais enfant. C'est mon père qui était pasteur à l'époque. Et on vient de terminer cette mission, et il y avait une âme qui s'était convertie. Et je me souviens, on terminait cette mission le dimanche avec une réunion de prière. Et je n'entendais que des plaintes, des jérémiades, des lamentations, disant « Oh Seigneur, mais où sont toutes ces âmes ?» Et je disais « C'est pas possible. C'est pas possible d'entendre ça. » Du haut de mes 15-20 ans, j'étais déjà... Mes bras m'en sont tombés, heureusement que ça a repoussé. Je disais « Mais Seigneur, ils n'ont pas la même Bible que moi. Le ciel est en fait pour une âme qui se repent. » Et là, l'église était en lamentation, quasiment en pleurs. Jusqu'à un moment donné, je dis, Seigneur, ici, je ne peux pas rester les bouches fermées. Je veux remettre personne à leur place, mais Et j'ai dit, mais Seigneur, je comprends pas. Et j'ai prié comme cela. La Bible nous dit que pour une âme qui se repent, le ciel est tout en fête et nous on pleure. Pardonne-nous. Vous saisissez? Alors oui, c'est vrai, mais une âme, frères et sœurs, je vous ai parlé de la valeur de l'âme. Une âme pour le ciel, une âme pour Dieu, c'est une âme en moins en enfer. Alors réjouissons-nous toutes les fois où il y en a une. Et puis espérons, bien entendu, qu'il y en ait 2, 3, 10, 20, 100, 30, 300, 1000. Si l'année prochaine vous arrivez ici, j'arrive la prochaine fois et qu'on est 100. Va dire, oh frère, mais ne doutons pas. Mais croyons que cela peut arriver. Est-ce que l'église de 10 personnes, comme l'église de 100 ou de 1000 ou de 10 000, n'a pas le même Dieu? Alors on croit toujours qu'on est limité en disant, bon Seigneur, mais attendons-nous à l'inattendu. J'aime bien ça parce que je l'ai entendu vendredi par Tony. Et je l'ai même noté dans ma Bible. Ah, je le répète, ça vient pas de moi. Attendons-nous à l'inattendu. J'ai dit, waouh! Mais Dieu est le Dieu de l'inattendu! Alors ayons confiance, croyons que Dieu a de grandes réserves de bénédictions pour son Église. Et croyons au Dieu des miracles et des prodiges. Et remercions-le de tout notre cœur. Ah, la mentalité biblique qui parfois... Mais ça, voyez-vous, la mentalité du découragement, c'est la mentalité du voleur. Et il ne faut pas avoir cette manière de voir ou de croire. Ça vient du diable, mes amis. Mais croyons que Dieu est le Dieu de la réussite, que le Dieu de la bénédiction, et que, comme dira l'Écriture, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Vous le croyez? Ou c'est juste superficiel? On le croit, mais... Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça, c'est de l'authenticité. J'aime beaucoup ce genre de personnage, et Jésus l'aime tout autant. Pas croire, pas être hypocrite, mes amis. Oui, je crois, et en fin de compte, en grattant un petit peu, on se rend compte qu'on croit pas du tout. Ou on croit pour les autres. Alors on se réjouit pour les pays où les âmes sont sauvées et viennent par dizaines. Mais réjouissons-nous aussi de la communauté dans laquelle tu vis. Et prie pour qu'elle grandisse. Amen. Prie parce que c'est là que Dieu te veut. C'est là que Dieu te veut. Nous sommes appelés à prospérer à tous égards. Dieu veut la réussite de ses enfants. Oh, je ne suis pas pour l'évangile de la prospérité, mais je crois à ce Dieu qui dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, c'est alors que tu auras... Ah, vous connaissez, du succès dans tes entreprises, c'est alors que quoi? Tu... réussira. C'est pas moi qui le dis, c'est le Dieu lui-même qu'il dira à Josué. Et il faut le croire, mes amis. À partir du moment où je fais ce qu'il faut, je lis, je médite, je prie, j'ai une communion sincère avec Dieu, je m'attends à lui. Dans tous les domaines. Ça, c'est la mentalité biblique. C'est la mentalité biblique. Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, nous ferons des... Et vous connaissez. C'est formidable. Alors, que ça ne soit pas des versets appris par cœur, mais que ce soit une réalité dans vos cœurs. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Alors, je termine. Oh là là. Ça va? Vous tenez le coup? Bon. Savez-vous comment on se fait voler nos bénédictions? En croyant des mensonges. En croyant des mensonges. Plutôt que de croire Dieu. Il faut croire la Bible et les promesses de Dieu. Croyez les vérités bibliques. Malheureusement, on limite souvent Dieu. On a du mal à croire en Dieu et de ce qu'il est capable de faire. Je dis parfois, même souvent, qu'on met Dieu dans un bocal. Et qu'on considère Dieu comme cela, comme ce bocal. Alors qu'importe la grandeur, il y a des grands bocaux. Mais Dieu n'est pas dans un bocal, il est au-delà du bocal. Au-delà. Alors que nous ayons vraiment confiance en Dieu par rapport aux promesses qu'il nous a faites. Vous savez, dans Habacuc, il dira, si la promesse tarde, et Dieu vous a peut-être fait des promesses à l'un ou à l'autre, si la promesse tarde, tant pis. Ne t'attends plus à ça. C'est pas ça, hein? Si la promesse tarde, attends-la. Parce qu'elle arrive. Ah oui, on aimerait bien qu'elle arrive demain. Ou dans l'après-midi, ou dans la minute même. C'est comme cet homme qui est impatient, qui dira, Seigneur, donne-moi de la patience, mais tout de suite. Dans la prière. Seigneur, donne-moi de la patience, mais tout de suite. Ça fonctionne pas comme cela. Et si la promesse, elle tarde, eh bien, attends-la, parce qu'elle arrive. Et Habacuc dira, elle arrive certainement. Certainement. Oui. Alors croyons à la vérité biblique. Dieu le même. Soyons des ambitieux pour lui. Soyons des ambitieux. Je crois que ce matin, il y en a plusieurs qui se sont fait voler. Voler tout simplement. On vous a volé peut-être votre rêve. On vous a volé peut-être votre famille, vos enfants, vos finances, votre mariage, votre travail, votre santé. Et le Seigneur désire vous rendre tout ce qui vous a été volé dans le nom de Jésus. Amen. Dieu désire vous rendre, mes amis, ce qui vous a été volé. Croyez-le ce matin. Croyez-le. Je conclus que peu importe ce que l'on vous a volé avec Dieu, il est toujours possible de récupérer. Amen. Tu peux venir, Camille et Léa. Et ce matin, quoi que l'on vous ait volé, si vous avez été victime d'un vol, j'aimerais vous dire que le Seigneur est capable, dans sa toute-puissance, de vous redonner ce qui vous a été enlevé. Je le crois, et je le désire, et je le dis, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, prions ce matin, ensemble, et disons, Seigneur, aide-nous, et que nous puissions faire attention à ne pas nous faire voler notre âme, que le diable essaye par tous les moyens de ravir. De ne pas cohabiter avec le diable, cohabiter avec le voleur. De ne pas être dans la dépression, dans la tristesse, dans le burn-out, dans une santé chancelante. De ne pas être de ceux auxquels on a volé leur joie. Et aussi, de savoir qu'il y a des bénédictions en réserve et de ne pas nous les faire dérober avant de même de les avoir obtenues. Vous dites Amen. Alors inclinons-nous un instant dans la prière. Je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole ce matin, qui certainement a touché nos cœurs, qui certainement, Seigneur, nous bouleverse, nous parle, nous interpelle de toute façon, parce que tu nous connais si bien. Et si tu parles de cette manière, ce n'est pas pour rien, parce que tu sais que certains, peut-être, cohabitent avec le voleur. Lui a laissé une certaine place. Lui a laissé une place qu'il a prise et qu'il continue à ravir petit à petit. D'autres seigneurs se sont fait voler leur joie. Et ce matin, on peut avoir un visage rayonnant et pourtant être si triste à l'intérieur. Avoir une façade, mais il n'y a pas de façade qui tienne avec toi. Il n'y a pas de masque qui tient avec toi. La parole nous dit que tu lis en nous comme dans un livre ouvert. Et Seigneur, ce matin, tu veux faire du bien. Et tu veux permettre à celui qui est en déprime et triste, ou qui, Seigneur, subit les assauts du burn-out, de ne plus en être victime, mais de récupérer cette joie qui vient de toi. Je veux te demander aussi, Seigneur, pour ceux qui, ce matin, alors qu'ils attendent une bénédiction, et s'ils ne sont fait ravir devant eux, ils ne l'ont pas obtenu, qu'ils puissent savoir qu'elle est toujours d'actualité avec toi. Et comme cette voiture que nous avions pu acheter, qui nous a été dérobée, il y en aura une autre. Il faudra attendre peut-être, mais on pourra l'acquérir comme on pourra acquérir les bénédictions que tu as données et qui sont là devant nos yeux. Certains, Seigneur, ont besoin de la saisir par la foi, parce qu'elle est là à leur portée. Il ne suffit que de la prendre comme ce fruit qui est là à notre portée sur l'arbre et qui est mûr. Ce matin, Seigneur, c'est la même chose. Certains attendent la bénédiction et croient en toi. Il ne suffit que par la foi de s'en emparer. Seigneur, je te prie, ô Dieu, d'agir dans le puissant nom de Jésus.